Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Sortie de zone. Merci d'être là en notre compagnie pour ce podcast deux fois par semaine qu'on fait ici du côté du 98.5 et de la presse sport. Simon-Olivier Lorange est là avec nous aujourd'hui. Salut Simon-Olivier.
Salut Philo.
On a Jérémy Réville du 98.5 aussi qui va participer à l'émission d'aujourd'hui. Salut Jérémy.
Salut Philo.
Et Guillaume Lefrançois qui lui est toujours avec. Salut Guillaume.
Salut Philo.
Alors les gars, le Canadien a fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire, c'est-à-dire connaître un autre bon début de match. Et ils ont trouvé le moyen de le faire tout en marquant des buts. Ils avaient dit justement avant le match numéro 2 que c'était le plan, c'est-à-dire connaître un autre bon début de match tout en allant chercher au moins quelques buts. Ils ont réussi à le faire. Simon-Olivier, je vais commencer avec toi. Est-ce que tu y as cru lorsqu'on nous a raconté ça, l'entraîneur-chef et les joueurs, et pensais-tu quoi? On allait être capable de l'exécuter de cette façon-là?
Ouais, c'est plus cette manière-là de le voir, parce que oui, je les croyais qu'ils voulaient connaître un bon début de match et marquer des buts. Je pense que tout le monde était extrêmement sincère là-dedans. Mais à la lumière du match numéro 1, j'étais un peu, je pense comme beaucoup de monde, ébranlé dans ma perception, dans le sens, mon Dieu, est-ce que le Canadien a ce qu'il faut pour venir à bout de cette équipe-là? Je sais pas s'ils ont ce qu'il faut pour en venir à bout, mais certainement, ils ont montré dans le match 2 qu'ils peuvent au moins leur tenir davantage tête. À preuve, ils ont gagné, mais je dois dire qu'ils m'ont surpris dans le match 2 parce que, justement, ça n'a pas été parfait, on va en reparler tantôt, mais l'effort a été beaucoup plus soutenu, puis oui, ça m'a un peu surpris qu'ils réussissent si rapidement que ça à s'ajuster.
Jérémy, quand t'as entendu les propos de l'entraîneur dire « Bon, on veut connaître un autre bon début de match ouais. », pareil comme le premier, sauf cette fois-ci, concrétiser, marquer des buts. Je dis OK, ouais, c'est beau de le dire, mais c'est une autre chose de le faire.
Mais on a fait la job. On a très bien fait la job du côté du Canadien. Tu sors de la première période avec l'avantage de 2-0. Clairement, ce club-là a montré hors de tout doute qu'il est capable de compétitionner face aux Golden Knights de Vegas. Moi, je suis plutôt surpris de voir comment, pour un deuxième match de suite, les Golden Knights n'ont pas un bon début de match. Je pense que ça a été le propre de l'équipe pendant l'ensemble des séries de fin de saison. Or, donc, si le Canadien joue du meilleur hockey lorsqu'il a l'avantage d'un but, ben là, je pense que le message est clair que pour l'ensemble des matchs restants entre le Canadien et les Golden Knights, le Canadien de Montréal doit tout donner dans les premières minutes de jeu pour être en mesure justement d'aller chercher un but et de prendre ce momentum et être en mesure de se donner un certain coussin qui donne confiance à l'équipe lorsque ces derniers jouent avec l'avantage d'un but.
Guillaume, sur le début de match?
Oui, c'est ça exactement. C'est un deuxième match de suite. Je pense que ce qui a fait la différence aussi, ça a été le fait de pouvoir profiter de ces occasions-là. Un petit facteur qui est important à souligner, on en avait parlé mardi, Simon-Olivier a fait un très bon article sur lui, mais l'absence de Chandler Stephenson, c'est quand même pas anodin. Et dès le début de match, ça a paru parce que dans le fond, c'est le trio de Derek Staal, le quatrième trio du Canadien, qui a ouvert la marque. Et c'était qui était de l'autre côté? Ben, c'était le quatrième trio de Vegas, mais un quatrième trio qui était différent parce que là, Stephenson, premier centre, est absent. Tous les centres montent, tu te ramasses avec Patrick Brown dans le quatrième trio. Puis je le dis comme ça parce que Patrick Brown, je peux pas croire qu'une équipe qui a autant de profondeur que les Golden Knights fasse appel à lui. C'est un joueur c'est un gars de 30 ans qui s'est jamais établi dans la Ligue nationale. Donc, c'est un peu particulier. Puis comme de fait, ça a été lui qui s'est fait tasser au début de la séquence et qui s'est amené sur le but.
Mais moi, je veux juste amener la conversation. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi Stephenson n'était pas là? Parce qu'on a eu, tu sais, DeBoer n'a jamais parlé de ça. Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose dans l'autre match qui pourrait nous amener à croire que ce gars-là est blessé pour un match à plus long terme? Je ne sais pas, vous autres, est-ce que vous avez vu quelque chose, les boys?
Non, moi, de mon bord, je n'ai rien noté. Puis les journalistes de Vegas avaient l'air tout aussi surpris que nous, on l'était. Donc, mystère et boule de gomme.
Bon, il y en a des mystères dans cette série-là, ça c'est certain. Là, on va en reparler tout à l'heure avec les yeux de Jeff Petrie. Mais la dernière période a été beaucoup plus difficile. T'sais, on a senti un Canadien nerveux qui savait pas trop quoi faire avec la rondelle. Souvent semblait vouloir s'en débarrasser. T'sais, tant qu'on la dompe dans le fond puis on revient. J'ai pas compris. Mais en fait, c'est la première fois que je sens le Canadien un peu nerveux depuis la série contre les Maple Leafs de Toronto. Et ça me fait un peu peur, je dois vous dire, parce que même avec une avance de 2 buts, je sentais que le Canadien n'était pas en contrôle. Il y avait une crainte que les Golden Knights allaient être capables de revenir dans cette période-là. Une chance, encore une fois, que Carey Price était là.
Ouais, mais si on prend comme prémisse de base que la meilleure des deux formations, ce sont les Golden Knights de Las Vegas. Oui. Donc, à partir de là, tu le sais que si tu ouvres le jeu, On l'a vu, là. Souvenez-vous des matchs entre l'Avalanche du Colorado et les Golden Knights. L'Avalanche ouvre le jeu. On veut créer de l'attaque. On est à l'attaque. Vegas les prend dépourvus souvent. On y va en contre-attaque. Donc, tu peux pas ouvrir le jeu quand t'es un club moins talentueux que les Golden Knights de Vegas. Donc, à partir de là, je pense qu'on a tenté de fermer le jeu et je te dirais, c'était l'énergie du désespoir parce que Vegas, écoute, on voulait marquer absolument.
Ben, c'est sûr.
Et là, c'était l'énergie du désespoir. Fait que quand tu dis, toi, panique, moi, je vais te dire plutôt, écoute, c'était, ils ont encaissé, là. Ils ont encaissé énormément, mais malgré tout ça, 24 lancers bloqués hier, outre les arrêts spectaculaires de Carey Price, pour moi, sachant que ce club-là est pour te mitrailler, je trouve qu'on a bien résisté. En fait, c'est ce qu'on a fait.
On a résisté, mais clairement, moi, je pense pas que Dominique Ducharme a apprécié cette troisième période-là. Il l'a dit. T'sais, il y a eu des bonnes portions de match, mais on a joué sur les talons vers la fin. Moi, je suis très en accord avec lui. Simon Olivier, je sais pas ce que t'en as pensé.
Ben, en fait, la petite réserve que j'aurais à ce sujet-là, c'est que je trouve que la toute fin du match, la dernière, je dirais, 90 secondes, a été assez bien gérée par
le
Canadien.
C'est vrai.
J'ai vraiment senti que les Knights, comme le soulignait Jérémy, tu sais, en rétrécissant l'écart, on le voyait, oh wow, ok, la meilleure équipe est en train de s'exprimer présentement à 3-0, à 3-1, à 3-2. Et on sentait la soupe très chaude. Le dernier, peut-être 90 secondes à peu près, j'ai senti le Canadien assez en contrôle. Et de ce que je vois, je suis pas sûr que les Knights ont un tir dans la dernière minute.
Écoute.
Ce qui est quand même pas,
Quand les Canadiens sortent le gardien, ils sont bien. Quand ils sortent le gardien, là. Vous savez, l'adversaire est pas jamais proche de marquer. Me trompes-tu ou?
C'est exactement l'impression que j'ai eue.
Ouais, ben écoute, il était en contrôle. Il était vraiment en contrôle. Mais moi, il y a des signes qui me disent, tu sais, toi, tu dis le Canadien était craintif. Moi, il y a des signes qui me disent Vegas est frustré. De voir Alec Martinez sur l'arrêt de Price qui lève les yeux au ciel, qui dit « Oh my God, qu'est-ce qui se passe là? » De voir Marchessault qui, lui aussi, roule les yeux. De voir Pacioretty qui s'en prend à Toffoli en fin de match. T'sais, on sent que les gros canons, les deux premiers trios, parce qu'encore une fois, les buts sont venus par la défensive, là, mais les deux premiers trios des Golden Knights de Vegas sont présentement frustrés. Là. On veut marquer, on est des marqueurs, on a le talent pour le faire et on n'y arrive pas. Fait que donc, je pense que le Canadien est en train de mettre un peu de roche là sous les lames des Golden Knights de Vegas. Et c'est sûr que, écoute, c'est la meilleure équipe quand même. On sait jamais quand ça peut débloquer.
Moi,
sauf que ils se défendent bien.
Là. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'en troisième période, à plusieurs reprises, on arrive à traverser la ligne bleue, on a la rondelle, et plutôt que de dire bon, on va essayer de la garder ici, on va essayer de s'installer, on va essayer de dégrainer les minutes et tout ça. Non, on prend un petit tir au filet anodin qu'on sait qu'il va se retrouver 2 secondes plus tard sur la palette d'un défenseur, puis la rondelle va repartir dans l'autre direction. Donc, c'est ça que je dis, que un petit peu de nervosité, on sait pas trop quoi faire avec la rondelle. Guillaume, qu'est-ce que t'as pensé de la troisième?
Ben oui, peut-être de la nervosité, mais je te dirais que de façon générale, puis ça a particulièrement paru en troisième, tu sais, le Canadien a vraiment dû tout donner, tout laisser sur la patinoire pour gagner, puis ça, c'est ça, tu sais, c'était prévisible à la fin. Et je me faisais juste la réflexion que, dans le fond, j'ai comme l'impression que Vegas, pour sa victoire dans le match 1, a comme eu l'air de beaucoup moins forcer que le Canadien a eu à forcer pour gagner, tu sais. Puis moi, c'est ça qui me laisse un peu dubitatif pour le restant de la série. Je me dis, est-ce que le Canadien va être capable, tu sais, si c'est ce que ça prend au Canadien pour gagner un match, là, s'il faut que tout le monde paye le prix comme ça, bloque des tirs, Weber en bloque une autre sur la main, les gars plongent, je veux dire, 3-4 très gros jeux en zone défensive que le Canadien a fait, tu sais, des plongeons vraiment de désespoir. Est-ce que ça, c'est une formule pour gagner 4 matchs dans une série contre un même adversaire? C'est là que je l'ai dit.
Je veux réagir à ça.
Logiquement, non.
OK, mais je veux réagir à ça. Hier, après le match, Carey Price a dit, parce qu'on a parlé de l'effort des défenseurs, entre autres, qui ont bloqué des lancers, mais il dit, c'est ça le hockey dans les séries, c'est ce que tu es prêt à payer comme prix à chaque match. Moi, je pense qu'on est prêt à le payer. Est-ce que c'est une formule en début de saison? Tu disais, regarde-nous, là, quand on va aller en demi-finale de la Coupe cette année, c'est comme ça qu'on va le faire. Pas convaincu, mais il faut être logique que le club de Vegas est un meilleur club de hockey, point de vue talent, là. Mais, tu sais, c'est un meilleur, avec plus de talent, avec plus de punch à l'attaque. Fait que donc, à partir de là, un coup que t'en es conscient, oui, ça te prend une performance comme ça, 4 victoires pour être capable de sortir les Golden Knights de Vegas. Si le Canadien ne fait pas ça pendant 4 matchs et 4 victoires, ça sera impossible.
C'est
A++, au pic et à l'appel, et A++, on le dit souvent, là.
Oui, oui, non, c'est ça. C'est exactement, parce que même hier, Corey Perry, il y a quelqu'un qui a posé la question, c'était quoi la différence dans le match d'hier, puis il a répété 2 fois... Je me souviens pas, les gars, s'il avait dit « we got the breaks » ou « we got the bounces », un des deux, là, ça veut dire « ce soir, on a eu des breaks », là, tu sais. Puis ça a penché de notre côté. Mm. Mais plus souvent qu'autrement, je pense que les breaks, comme on appelle dans le monde du sport, tu vas en avoir plus dans l'équipe qui est meilleure, qui lance plus souvent, qui se donne plus de chances d'avoir les... Tu sais, faut-tu créer des chances, c'est ça qu'ils disent.
Moi, je pense que c'est le travail qui fait la différence, pas tant le talent que le travail.
OK, ça peut être le travail. Ouais. Simon Olivier, est-ce que tu partages l'opinion de Corey Perry qu'il y a eu quand même un élément de chance dans cette victoire-là? Là?
Ben, un élément de chance, tu sais, le premier but, c'est un gros effort. En fait, l'élément de chance, c'est peut-être le cadeau de Fleury sur le but de Tyler Toffoli. À la défense de Fleury, nous, je pense que personne pensait que Caulfield allait faire cette passe-là, mais il a quand même raté son déplacement. Mais tu sais, l'élément de chance, je pense que le Canadien a quand même fait son travail dans ce match-là. Puis, tu sais, l'histoire d'avoir les breaks ou les rebonds, il n'y a pas de bonne tradition française pour les breaks, là. Mm-hmm. Mais, tu sais, c'est pas, moi, je l'attribue pas seulement à se donner le plus de chance. C'est évident que, en tirant plus, en ayant plus d'occasion de marquer, une équipe se donne plus de chances de marquer, mm-hmm. de marquer des buts puis de gagner. Sauf que, combien de fois c'est arrivé, justement, qu'une équipe négligée gagne la guerre de l'usure? Les Islanders contre les Bruins au tour précédent ont gagné le match numéro 5, je pense, en tout cas, l'avant-dernier match, en tirant 19 au filet contre 44. Tu sais, c'est des cas de figure qui existent beaucoup. Les Stars de Dallas ont fait ça tout le long de leur parcours en série l'an passé. Ils ont gagné une série contre Vegas en marquant moins de buts que l'adversaire. Fait que, tu sais, ça se peut gagner une guerre d'usure, mais c'est ça. Le nom écoute, le dit, ça use.
Là. Écoute, ça me fait penser, il y a un des matchs canadiens Maple Leafs qui sera en prolongation. Puis à partir du milieu de la deuxième jusqu'à la prolongation, je pense que le Canadien a 4 tirs au filet puis il marque en prolongation.
Exact.
Et puis alors que les Maple Leafs en avaient eu, je crois, 19, si je me trompe pas, mais ça a tombé du bord du Canadien. Carey Price, encore une fois, a été, pour moi, le meilleur joueur du Canadien sur la patinoire hier, surtout en troisième. Il a été sensationnel. Maintenant, la question, c'est, peut-il faire la différence à ce point pour transporter le Canadien à remporter cette série-là? Où est-ce que ça va prendre plus que juste Carey?
Ça prend à la base Carey et ça prend
et
tout
plus.
Le monde. Ça prend
et, plus.
Et tout le monde, exactement. Donc, c'est Carey à la base. Puis, sincèrement, ce gars-là, je pense que marquer le premier but en partant, ça l'aide. Ça donne une petite confiance. Là.
On l'a vu, ils sont plus à l'aise avec l'avance.
Exactement. Donc, tu marques le premier but, Carey doit être ce qu'il est capable de faire et ça prend un jeu collectif qui a un plus. Ça prend des défenseurs, comme on a mentionné tantôt. Ça prend des gars qui bloquent des lancers. Ça va prendre de l'opportunisme. Ça va prendre de la chance, mais un peu de boulette. Tu sais, notre ami Fleury qui va d'un harponnage
écoute,
face à Paul
Byron là,
ça n'a aucun bon sens. Hey,
ça t'sais. Faisait-tu 1968?
Non, tu sais, puis il l'a dit dans le point de presse après. Aussitôt que j'ai commencé à le faire, j'ai fait « Ah non, ah non! » Puis finalement, Byron, il lobe la rondelle du revers. Bon, écoute, ça prend des chances comme ça. Il faut que tu aies des opportunités, puis on a été capable de les saisir chez les Canadiens.
Oui, bien, tu l'avais dit dans le dernier podcast. Fleury est bon, mais il n'est pas imbattable.
Non,
il
mais
est imbattable.
En fait, c'est qu'il est spectaculaire, mais c'est lui qui cause le spectacle. Parce que souvent, il va échapper la rondelle.
Hey, hier, là, à un moment donné,
ça n'a pas de bon sens.
Il glisse, il se retrouve ses faufounes, il est en arrière du filet, il donne la rondelle.
Attends, Jérémy, juste dire, Simon Olivier, tantôt, t'as dit, tu sais, un cadeau de Fleury sur le but de Tyler Toffoli. Moi, je pense que c'était un changement de vitesse que Toffoli a envoyé. Là. En fait, c'était un lancer raté. Puis
un lancer raté.
La don a fait sa passante.
C'est les pires tirs, ça. C'est épouvantable. Tu t'attends, premièrement, comme Simon Olivier le disait, premièrement, il devait s'attendre au tir de Caulfield. Ouais. En plus de ça, il y avait un écran qui l'a peut-être empêché de lire la passe. Puis là, ben après ça, Toffoli qui rate son tir. C'est sûr que c'était... Fleury paraît mal parce que le tir rentre à vitesse de mes tirs quand j'étais novice. Mais je veux dire, il y a beaucoup de...
Ça fait quand même une bonne shot.
j'ai dit novice parce que je suis devenu gardien après.
Okay,
c'est le moment où j'ai joué attaquant.
Ben, Simon Olivier, quand on regarde Marc-André Fleury devant sa cage, on parle de Carey Price qui inspire confiance aux Canadiens. Moi, je suis un joueur des Golden Knights. Je le regarde aller des fois puis je me dis « Oh, pas là. » Je sais pas. Je suis pas sûr. Puis ça, je pense qu'à un moment donné, ça peut jouer dans la tête de ces joueurs-là. Ça peut être un facteur dans cette série-là, je crois. Qu'est-ce que t'en penses?
Tu parles pour les Knights ou pour le Canadien?
Ouais, pour les Knights.
Pour tout le monde.
Bon, ça peut être pour tout le monde aussi. Tu sais, le Canadien peut aussi voir ça puis dire, il y a de l'espoir. Je pense que plus qu'on tire, peut-être qu'il y a moyen de que cette rondelle-là pénètre dans le fond du filet. Mais on le sait que normalement, il fait le travail quand même si c'est un style très échevelé. Mais veut pas, en le regardant, sa patinoire hier, c'est spécial. C'est spécial.
Ben, c'est spécial, mais en même temps, tu sais, c'est sa quatrième saison à Vegas. La moitié de l'équipe joue avec lui depuis tout ce temps-là. Tu sais, Fleury, c'est un joueur qui est adoré par ses coéquipiers. Ouais. C'est le joueur le plus populaire dans le vestiaire. Il vient quand même de la meilleure saison de sa carrière, connaît des séries incroyables. Tu sais, il connaît son style, là. Puis c'est drôle parce que c'est un style qui appartient un peu aux années 90 et peut-être 2000, justement, d'être un peu partout à la fois. Tu sais, très Martin Brodeur, Sgarrocher, ici et ça. Tu sais, juste la différence. Quand Carey Price, hier, a manqué un dégagement.
Oui.
Intercepté par Jonathan Marchessault qui a tiré. Tu sais, Price était revenu devant son filet, a fait un arrêt de l'épaule, la rondelle dans la foule, c'est fini. Price s'est jamais emballé. T'sais, Fleury sur des jeux plus de routine. T'sais, en tout début de match, je pense que c'était sur Jeff Petrie, les deux jambières d'un air.
Ben oui.
C'est son style à lui, puis c'est un style qu'il sert bien depuis 17 ans dans la Ligue nationale. Fait que c'est pas demain qu'il va changer, puis je pense que c'est pas ça qui va changer la confiance qu'ont ses coéquipiers envers lui.
Bon. Oui, puis même que je pense que ça donne un espèce de boost d'émotion à ses coéquipiers aussi, là, ce style-là spectaculaire. Puis tout, autant que Price, quand c'est son langage corporel de gars en confiance, quand tu fais un arrêt de la mitaine puis qu'on voit là, que son sa démarche et puis son langage de gars très sûr de lui, ça donne quelque chose aux Canadiens, ça donne l'émotion aux Canadiens. Ben, chez les Golden Knights, c'est comme ça avec Fleury aussi,
ouais.
Mais c'est exprimé de façon différente.
Non, mais tu sais, je fais attention à ce que je dis, je l'aime, c'est un gars de Sorel. Je l'aime, oui. Je l'adore, il est bon, je souhaite le plus grand succès possible. La seule chose, c'est que, tu sais, c'est le fun qui amène une belle ambiance, qu'il soit bon, qu'il soit gentil, qu'il ait 52 dents pour faire un sourire. C'est parfait, là. Je suis vraiment heureux pour lui, là. La seule chose, c'est que si moi, je m'appelle DeBoer, ça se peut que je sois sur le banc, puis je me questionne, je fais, mon Dieu. Hey, chaque fois qu'il sort de son filet pour passer à la rondelle, c'est l'aventure totale.
On ne sait pas
ce qui va se passer, tu sais. Fait que, comment tu veux planifier quelque chose de pas pire avec tes défenseurs quand même tes défenseurs sont pas au courant de ce qu'il va faire? Tu sais, puis on ne sait pas ce qu'il va l'envoyer, là.
C'est assez extraordinaire.
Mais je peux comprendre de Boer à un moment donné qu'il a fait, OK, on va essayer Leonard. Il est plus carré, il est plus plate, il est peut-être plus efficace. Malheureusement, dans le match qu'il a gardé des buts, il s'est fait une varlope, puis il n'a pas été
ça
là.
Ça a fonctionné.
Mais clairement, je peux comprendre le questionnement que tu peux avoir en regardant Marc-André Fleury.
Mais Simon Olivier, est-ce que la performance d'hier est suffisante pour faire taire les dénigreurs qui disent que la division canadienne était inférieure aux autres? Je pense que Guillaume, tout à l'heure, a touché un bon point quand il a dit, tu sais, les Golden Knights ont gagné le premier match sans forcer autant que le Canadien dans le deuxième. Moi, je pense que c'est pas totalement cette façon de penser-là n'est pas encore totalement derrière nous, mais qu'est-ce que t'en penses?
Moi, en fait, de toute la saison, j'ai jamais acheté cette opinion-là très répandue de la division canadienne est plus faible. La différence, c'est que j'ai l'impression que l'écart entre les équipes était plus petit, le peloton était plus serré dans le sens, ben, tu sais, les Leafs étaient la meilleure équipe. On a vu que les Canucks, c'était difficile, mais tu sais, mettons qu'on prend la division des Knights de Vegas, que j'ai regardé qui était cette année, la fameuse division Honda West. Tu sais, il y a les trois équipes de la Californie qui est parmi les pires équipes de la Ligue nationale.
Exact, exact.
Il y a les Coyotes de l'Arizona qui ont raté les séries par 9 points. C'est-à-dire que il y avait des équipes très puissantes, mais tu sais, est-ce que ça faisait une division puissante pour autant? Je pense pas. Il n'y a pas eu de parité dans cette division-là. Il n'y a pas eu de bons défis pendant l'année. Fait que tu sais, le Canadien, quand on regarde leur division, les Sénateurs d'Ottawa qui ont eu un début de saison catastrophique, et le mot catastrophique est pas assez fort pour décrire leur début de saison, que leur saison était ruinée après 12 matchs. Mais Colin, ils ont dérangé les autres équipes jusqu'à la fin, puis ont fini par manquer les séries juste, entre guillemets, juste par 8 points. Ce qui est quand même pas énorme quand on regarde le cours d'une saison. Tu sais, c'est une équipe qui a compétitionné jusqu'à la fin. Les Flames de Calgary ont pas eu une saison à la hauteur de leurs attentes, mais est-ce qu'ils en ont causé du trouble aux Canadiens? Certainement. Tu sais, il n'y en avait pas d'équipe sur lesquelles chaque soir on allait juste se défouler, puis on rentrait à la maison et c'est tout. Fait que moi, c'est ça, la division canadienne. Ben, est-ce que le Canadien est une moins bonne équipe que les Knights? Absolument. Est-ce que c'est parce que la division canadienne est plus faible? Ben non, c'est parce que ça arrive chaque année des mismatchs même en demi-finale. Parfois, c'est arrivé en finale de la Coupe Stanley. Là.
Et les gars, faut absolument parler de Jeff Petrie, qui était de retour au jeu, oui, avec ses yeux de vampire. Et Maxime Paquette, à la mise en onde aujourd'hui, nous disait, je pense qu'il a vendu son âme au diable pour qu'il lui donne les munitions nécessaires pour être capable de revenir au jeu. Mais écoutez, il a quand même connu un très bon match. Il a donné un bon coup de pouce à son équipe pour essayer de gagner cette série-là. Mais faut parler un petit peu du jeu de poker du Canadien. Est-ce que vous l'achetez ou vous ne l'achetez pas? Parce que ce matin, en point de presse, on nous a dévoilé des choses que, tu sais, Jeff Petrie dit, moi, je savais hier matin que j'allais jouer. Je me suis présenté à l'aréna à l'heure où je me présente normalement quand je joue. J'étais très confiant que j'allais jouer, puis tout ça. Et là, du côté de Dominique Ducharme, on dit, non, mais même si lui voulait jouer, ça prend l'approbation des médecins. Les médecins ont dit qu'ils ne donneraient pas le feu vert avant la période d'échauffement et tout ça. On avait publiquement indiqué du côté du Canadien, lorsqu'on a dévoilé l'alignement, que Petrie n'était pas là. Est-ce qu'on a joué une petite game? Parce que Dominique Ducharme dit non, ben, ça n'a rien à voir avec ça.
C'est clair qu'on a fait ça. C'est clair.
Ben, c'est-tu correct?
Ben, Mazin, c'est correct. Okay. C'est ça, les séries de fin de saison. C'est comme ça que ça marche.
Mais ils se sont fait critiquer aujourd'hui.
Ben,
là.
Ils peuvent se faire critiquer.
Parce qu'il y a des membres des médias qui disent là, arrêtez de nous bullshitter.
Hey, la priorité, c'est tu sais quoi? C'est 1-1 dans la série.
Ah, c'est sûr.
C'est ça, là. Le but, c'est on essaie de déstabiliser l'adversaire. Et d'autant plus qu'on est arrivé durant la période d'échauffement et Petrie n'était pas sur, j'utilise le terme en anglais, son pairing normal. Là. Fait que donc, tu pouvais pas penser, ah, ben regarde, il va être là. Non. Et à la dernière minute, on décide de faire ça. OK, parfait. Là, il y a un point qu'il faut dire, c'est que si vous êtes parieur, vous cognez la tête sur les murs parce que vous vous dites, mais comment ça se fait qu'on savait pas que Petrie était pour jouer, puis comment ça se fait que Stephenson était pas là? Moi, ça change la donne dans mes paris. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Non, mais la Ligue nationale est quand même partenaire avec plusieurs compagnies qui font du pari sportif. Là. Ça, c'est ça va devenir, à un moment donné, une règle importante de mettre ça clair pour avoir des paris qui sont justes et égaux. Là.
Mais ça, c'est la responsabilité de la Ligue.
Ouais.
Comme dans la NFL, t'es obligé d'établir si le joueur est probable ou questionable ou en tout cas.
Mais de le faire comme ça, pour moi, c'est de bonne guerre. C'est ça, les séries de fin de saison.
J'ai aucun problème avec ça. Sur ce sujet-là. Ou Guillaume, moi, si tu veux y aller.
Ben, j'allais juste dire ce qui était vraiment particulier, au-delà du tweet du Canadien là, qui annonçait la formation, c'est que sur le site de la LNH, tous les espèces de rapports de match sont disponibles. C'est les feuilles de statistiques officielles, c'est les rapports où on documente les mises au jeu, le temps de l'âge, tout ça. Et un de ces rapports-là, c'est les formations des deux équipes. Et puis, tout de suite après l'échauffement, il y a une première version de ce rapport-là qui a été généré et dans laquelle Petrie était absent aussi. Donc ça c'était vraiment particulier parce que ce rapport-là, il y a un côté très officiel. Là. C'est pas un tweet de l'équipe des réseaux sociaux du Canadien. Là. C'est un rapport généré par la Ligue.
Sauf
donc
que
pourquoi sur ce rapport-là, dans la première version, Petrie était absent. Puis là, une minute après, il joue et puis Kulak est sorti. Moi, c'est là que je serais très curieux. Puis d'ailleurs, tu sais, là au moment où on se parle, Peter DeBoer n'a pas encore parlé aux médias, mais je serais vraiment curieux de savoir lui ce qu'il a à dire sur ce qui s'est passé justement hier après l'échauffement.
Mais Guillaume, juste le même rapport officiel, c'est cette même personne-là qui fait ce rapport-là qui avait dit que Jake Allen était le gardien de but partant dans le match numéro 1 contre les Jets quand c'était Carey Price. Puis on l'a corrigé une minute et demie après. Tu te souviens? C'est arrivé. Ça. Fait que donc...
Oui, exact. Il y a des erreurs des fois peut-être de manipulation, mais dans ce cas-là précis, je sais pas.
Simon Olivier là-dessus,
j'ai hâte d'entendre le coach.
Moi, j'ai hâte d'entendre Simon Olivier. Vas-y.
Mon Dieu, je vais essayer d'être à la hauteur de tes attentes. Moi, je suis évidemment le premier à me navrer quand ces situations-là arrivent parce qu'on s'entend pour nous, les journalistes, ça facilite pas notre travail du tout dans le sens où, tu sais, on couvre le point de presse le matin et là, t'as Dominique Ducharme qui patine puis qui nous dit qu'on sait pas puis qu'il a besoin des avis puis là, le soir, quand on voit que le joueur peut jouer. Mais comme l'a dit Jérémy, ben, ils ont le droit puis ça fait partie de l'espèce de jeu d'échec ou je sais pas si on peut appeler ça comme ça en série. Mais le Canadien adore jouer à ça. Quand Petrie s'est blessé, contre Winnipeg, le matin du match 4, Ducharme a dit bon, ben c'est Romanov ou Ouellet qui va jouer. Puis là, ce qu'on savait tous, on se doutait bien que c'était pas Josh Brooks qui allait être appelé du Rocket en catastrophe, tu sais. Mais là, on commence à demander sur quoi vous allez vous baser. Et là, Ducharme nous a fait un solo de violon sur. Ben là, on va regarder telle situation. Finalement, il a parlé pendant une minute pour rien dire. Le soir, pendant l'échauffement, c'est Romanov et Ouellet qui sont de l'échauffement. Mm-hmm. C'est finalement Romanov qui joue. Et après le match, ou même le lendemain, c'est Shea Weber qui dit « Ah, Romanov était vraiment encore plus enthousiaste que d'habitude hier matin parce qu'il savait qu'il allait jouer. » Fait que, tu sais, c'est réglé. Xavier Ouellet, il a eu un échauffement gratuit dans cette histoire-là avec le Canadien. Puis c'est tout. Là, il n'y a jamais été question qu'il joue. Fait, ça fait partie du jeu.
Va donc t'habiller.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est pas la première fois. Il y en a eu cette saison. Souvenez-vous, messieurs, après des moments difficiles, le Canadien a affronté les Oilers d'Edmonton. Tu sais, j'en parle souvent de cette victoire de 4-3 où le Canadien avait dominé, puis en fin de match, les Oilers sont revenus, mais vraiment avait dominé les Oilers. Et là, on s'en allait affronter une séquence de 3 matchs face aux Flames de Calgary. Le Canadien était supposé avoir congé le vendredi. Les joueurs ont décidé d'avoir un entraînement. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette séquence-là. Là. Chez Weber, mm-hmm. est arrivé pour demander d'avoir un entraînement. Là, on était là, mon Dieu, l'équipe est en train de se mettre en branle. Eh bien, Sutter, le coach des Flames de Calgary, je ne sais pas si c'est une supercherie, mais la veille, aucun cas de COVID était déclaré du côté des Flames de Calgary. OK? 17 heures, le rapport, zéro. La journée du match, il y avait finalement un cas de COVID. Mm. Et puis là, on savait pas si le match avait lieu. Et on a appris à la dernière minute que, ouais, ben le match va avoir lieu. Tu sais, des fois, ça fait juste déstabiliser les choses. Oui, il y a eu un cas de COVID. Là. Je dis pas qu'il n'y en avait pas. Ouais. Mais de l'annoncer, quand on l'a annoncé, comment on le fait, ça venait déstabiliser un peu ce que le Canadien est en train de faire. Moi, je pense.
Moi, la seule chose que je dirais, c'est qu'il faut pas qu'on se place dans une situation où les médias véhiculent des mauvaises informations. T'sais, ça, c'est... Si tu t'es
en train... C'est vrai jusqu'à temps que ça change.
Non, mais je veux dire, il faut juste... c'est là où la Ligue doit faire attention. C'est parce que si... Tu sais, aujourd'hui, c'est qui, là, sur les ondes de NHL Network?
Elliot Friedman,
tu sais, qui disait... Tu sais, il faut faire attention à ça. On veut pas non plus que les médias véhiculent des fausses informations ou des menteries, là, je veux dire.
Écoute, ben
c'est quoi? S'il y a quelque chose que le règne de Donald Trump nous a appris aux États-Unis, c'est la nuance entre, c'est vrai ce que je veux dire. La nuance entre un mensonge et une information inexacte. Parce qu'un mensonge, c'est, il y a une intention. C'est-à-dire que le Canadien, par exemple, aurait dit, c'est sûr à 100% que Jeff Petrie joue pas ce soir, il a la main arrachée. Et le soir, Jeff Petrie arrive et connaît un match exceptionnel. Ça, c'est un mensonge. Mais tu sais, après ça, l'information un peu floue, ben là, ça, ils ont le droit. Puis après ça, les médias, c'est aussi notre responsabilité de faire la part des choses, puis de pas partir en peur, en spéculation, puis de rapporter les choses comme elles sont, même si c'est frustrant pour nous.
Écoute, revenez au match numéro 4 contre les Jets, OK? Ce matin-là, Dominique Ducharme nous dit de Petrie, il est blessé, on le sait pas.
Game time,
OK? Mais là, aujourd'hui, Ducharme nous dit, hey, imagine Petrie, il était tellement craqué que lui, là, il l'aurait joué la game numéro 4. Tu sais, on vous l'a dit.
Je comprenais pas, moi.
Ben, c'est ça. Ben, c'est parce que, Dominique, tu nous as dit toi-même qu'il était game time decision, mais là, tu ris du fait qu'il aurait voulu la jouer cette game-là tellement c'est ridicule de penser
qu'il rate le premier match après une pause. Fait que je me dis, OK, s'il est prêt à jouer, c'est quoi le problème?
C'est ça. Fait qu'il y a ben de la bullshit, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, la réalité. mais il y a des gars qui sont véritablement amochés. Je pense à Shea Weber, je pense à Brendan Gallagher. Hey, Brendan Gallagher, c'est un kamikaze, là. Ça n'a pas de bon sens. Après toutes les games, il y a une nouvelle scratch d'en face, là.
Ouais, disons que Pietrangelo s'est efforcé de lui donner un nouveau souvenir, là. À un moment donné, je sais pas, vous avez vu le double échec à la ligne rouge, là. Sur le bord de la tête. Aucune pénalité là-dessus.
Non, je sais.
Hey, hier, Vegas, zéro punition. 2 pour le Canadien.
Ouais, c'est dans mon prochain sujet, mais embarque, vas-y.
Non, mais ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Je dis pas, là. Je commencerai pas comme Bruce Cassidy en disant les Saints de New York en parlant des Islanders, mais ça n'a aucun bon sens. Tu sais, je veux dire,
match âprement disputé où ça.
Carlson, double échec sur Edmondson en fin de match. Pietrangelo, à plusieurs reprises, et double échec, à quelque part, là. Moi, je trouve que,
moi, j'ai bien aimé le coup de bâton de William Carrier quand Corey Perry est par terre, qu'il y a déjà Ryan Reeves sur le dos.
Ben oui, j'ai pas vraiment saisi
ça non plus. Tu sais, clairement que Perry s'est fait mal, puis on a vu Eric Staal péter les plombs. Hier soir, Eric Staal a beaucoup parlé aux arbitres. Oui. Hein. Je sais pas, moi, comme beaucoup de monde, sauf Guillaume, j'ai regardé le match à la télévision, là, mais Eric Staal en avait très long à dire aux arbitres. Je pense que c'est révélateur dans la mesure où Staal, pour le peu qu'on l'a vu à Montréal, de toute façon, on connaissait déjà le joueur, c'est un joueur assez contenu. Tu sais, c'est pas un gars qui fait des esclandes tout le temps ou un Gallagher qui est tout le temps en train de se pogner avec quelqu'un. Puis de voir Staal choqué comme ça après les arbitres, je pense qu'il est comme il y avait un petit peu les cœurs en titre au niveau de la glace. Là.
Non, écoutez, c'était incroyable de voir le nombre de coups, puis je comprends que... Qu'est-ce que vous avez pensé, Guillaume? Qu'est-ce que tu as pensé ce matin du propos de Dominique Ducharme qui a dit « Ils ont joué propre. Ils ont joué très propre. »
Mais ça m'a surpris par contre qu'ils disent ça au lendemain d'une victoire. Je pense que souvent, mais tu sais, je pense que c'est justement la preuve qu'ils voient peut-être un avantage à aller chercher là, à mettre un petit peu d'attention sur les arbitres comme ça pour rappeler à la ligue là, que c'est ça là, que c'est vrai que dans un match où il y a eu à peu près 100 mises en échec qui a aucune pénalité, qu'une équipe a aucune pénalité, c'est pas normal. En même temps, le Canadien a seulement eu deux pénalités aussi là, donc c'est pas comme s'il y a eu un grand déséquilibre, mais tu sais. T'sais, puis t'sais, vous parliez de la séquence où Carrier a frappé Perry. Ouais. Moi, je pouvais pas croire qu'à la fin de ce mêlée-là, qu'il y avait tout simplement personne au banc, même à la limite, juste t'sais, sortir un gars de chaque côté.
Ouais, ça, sort les deux.
Personne au banc, voyons donc.
Ça aurait pu être un jeu dangereux.
Mais la pire pénalité, selon moi, qui n'a pas été appelée, c'est vraiment celle de Carlson qui pousse sûr, double échec dans les hanches. Edmundson à la fin. Tu sais, moi, honnêtement, là, moi, je comprends le rôle d'un officiel. C'est un humain, premièrement. Tu peux être influencé par la foule, tu peux être influencé par le score, tu peux être influencé par un paquet de facteurs, il n'y a pas de problème. Mais de ne pas donner cette pénalité-là, pour moi, c'est un jeu qui était dangereux. Je pense que la pénalité n'a pas été donnée parce qu'Edmundston, tu sais, je ne sais pas s'il s'est laissé aller, mais Chant, il a senti le double échec dans les hanches, puis il s'en est donné à cœur joie dans Bivitré. J'ai l'impression que c'est vraiment frappé le visage dans Bivitré. Par contre, là, il s'est peut-être fait prendre un peu à son propre jeu. Mais de ne pas appeler de pénalité là-dessus, pour moi, c'est un geste qui était dangereux.
J'ai trouvé ça surprenant que personne pose à Edmundson la question hier soir après le point. Parce qu'il est sorti le premier là à la table là, des médias, c'était lui. Donc clairement, il était correct, mais il n'y a personne qui a posé...
C'est les yeux rouges de Petrie qui a fait toute la différence. Tout le monde voulait parler des yeux rouges.
Moi, j'en reviens pas des yeux rouges. Je le regardais sur la glace là, quand il y avait un zoom-in sur ses yeux, puis j'avais l'impression de regarder les bonhommes de Scooby-Doo dans le temps quand le méchant s'en venait, il courait après... Alors, moi, je suis sur la glace en avant de lui, c'est sûr que je me cache. Là. Je reste pas dans le coin. Mais ceci dit, je suis un petit peu inquiet du fait qu'on a des joueurs amochés. T'sais, Gallagher est amoché, Weber est amoché, Petrie est amoché. Je comprends, mais regarde l'autre bord. Il n'y en a pas. T'as-tu vu en face de Max Pacioretty? Rien, il n'y a pas de scratch dessus.
Ça,
rien,
ça t'en dit gros sur l'implication du joueur.
Oui, mais ils sont à la même place, les deux. C'est 1-1 dans la série. Puis non, je pense qu'ils ont pas mal moins souffert. Petite question de même. Est-ce que Dominique Ducharme aura besoin de Thomas Tatar dans cette série-là? Est-ce que c'est un gars qui peut t'amener un spark à un moment donné jouer contre son ancienne équipe?
Question, non. C'est-tu à propos de poser cette question-là? Ben voyons donc. Tant aussi longtemps que ça va bien, ton club performe, je dirais que... Tu sais, avant de penser d'amener un gars qui va te donner... Moi, j'utilise le terme fancy, là, qui va t'amener du fancy offensivement... T'as besoin d'avoir des gars qui travaillent. Fait que donc, excusez-moi, là, puis je veux pas insulter personne, là, mais tu sais, s'il y a quelqu'un qui pense qu'on rentre Tatar si jamais il y avait un blessé avant de rentrer Jake Evans, moi, je rentre Jake Evans avant de rentrer Tatar en premier, là. C'est sûr.
Il y a quand même un certain talent offensif. Je joue contre son ancien équipe.
J'ai rien contre Tatar, là. C'était le meilleur pointeur l'an passé, là, du Canadien. J'ai rien contre lui. La seule chose, c'est que là, présentement, c'est une série au pic et à l'appel, et Tatar, c'est pas sa spécialité.
Exact. Il va être complètement effacé dans une série comme ça. C'est vraiment pas un style de jeu qui lui convient. Puis l'autre chose, Lekkonen, Dano, Gallagher, je sais que c'est pas spectaculaire offensivement, mais les trois ensemble ont toujours pas accordé de but à l'adversaire à 5 contre 5. Mm-hmm. Ils ont marqué deux buts, ils en ont pas accordé, ils sont rendus à près de 60 minutes de jeu, tout le temps jouer contre des gros trios, ça marche ce trio-là. Donc, en tout cas, ça marche, du moins, ça fait le travail de neutraliser le premier trio de l'autre côté. Puis, c'est ça. Donc, il n'y a vraiment aucun incitatif pour rentrer Tatar en ce moment.
Est-ce que je peux ajouter un petit sujet vite? Un, les mises en jeu en territoire défensif, encore une fois.
Je lis les mises en jeu. Okay. On a une question du public là-dessus.
Parfait. Et Philippe Dano, hier, quelle performance au cercle des mises en jeu. Le gars, à un moment donné, on avait l'impression qu'il était juste plus capable de se tenir debout. C'est quoi? C'est 37 présences à la patinoire hier. Il a été solide. Et j'ai dit à Martin McGuire après le match, il y a deux phrases que j'entends tout le temps de toi, Martin. C'est un, c'est l'arrêt de Price. Et deuxièmement, c'est gagné par Dano. Il a fait ça toute la soirée, gagner des mises en jeu.
Surtout en territoire défensif.
Ah, quelle performance.
C'est extraordinaire hier.
C'est vraiment fou aussi à quel point Ducharme compte sur lui. Moi, ça c'est une statistique que je surveille depuis le début des séries. Les mises au jeu en zone défensive dans toute la Ligue nationale, OK? Depuis le début des séries. Philippe Dano, premier à 179. Il en a pris 179. Et le deuxième, c'est Jean-Gabriel Pageau qui en a pris 114. Aïe. Philippe Dano en a pris 65 de plus que, ben, que ça, le deuxième derrière lui.
Le Canadien a gagné en 4 au deuxième tour. Le Canadien
ah,
a fait une ronde de série.
Bon point.
Ils sont rendus à 17 matchs. Là.
Bon t'sais, point.
Ils ont relativement peu joué. Là.
Et ça dit à quel point le Canadien passe du temps dans son territoire aussi. Honnêtement, c'est vrai. C'est vrai, pareil.
C'est ça, oui.
C'est vrai.
Mais tu sais, je pense qu'on s'attendait tous à ce que Philippe prenne plusieurs mises en jeu, étant donné on connaît la situation au centre chez le Canadien cette année, mais peut-être pas à ce point-là. Dernier sujet avant d'aller à la pause, Marc Bergevin est en liste pour le titre de directeur général de l'année dans la Ligue nationale de hockey, en compagnie de Lou Lamoriello des Islanders et Bill Zito des Panthers. À part de dire que c'est toujours bon d'avoir un Italien comme directeur général, ça te donne des bonnes chances de gagner, mais est-ce que Marc Bergevin mérite... Écoute, c'est tu regardes les trois, là, puis pas facile comme
ben,
choix.
Écoute, je pense que dans un premier temps, là, il faut comprendre que c'est voté après le deuxième tour, hein, c'est ça? Après le deuxième tour, c'est voté par les DG de la Ligue nationale de hockey parce qu'on veut voir le résultat de ce que le DG a fait dans la saison, si ça se traduit en série de fin de saison. Si c'était l'unique point pour évaluer, je pense que Bergevin pourrait gagner ou la main, tu sais, pour dire, regarde, oui, ça a marché.
Ouais.
Mais je pense qu'il faut que tu considères la saison aussi. Fait que donc, à partir de là, la saison a vraiment été difficile pour Bergevin, ouais, malgré que tout ça s'est concrétisé en série de fin de saison. Fait que ça sera pas un choix facile, mais tu sais, les Panthers ont connu une saison incroyable.
Ouais.
Les Islanders sont rendus dans la même situation que les Canadiens en ayant connu une bonne saison en saison régulière. Fait que le choix sera pas évident. Mais d'être là, je pense que c'est un must.
Ben oui.
Maintenant, est-ce qu'il va gagner? J'ai aucune idée.
Ouais, j'espère juste que ça va se jouer, par contre, entre Bergevin et Zito, parce que Lamoriello, les Islanders sont très bons, là. Sauf que, il a pas fait, non, tu sais, il y a quand même un noyau relativement stable depuis 2-3 ans. Donc, c'est juste là, tu sais, je comprends qu'il a été chercher Blake Coleman, Andy Green, là, ça
non, mais c'est Palmieri,
Palmieri, excusez, puis Andy Green. Je comprends qu'il a fait ça, mais c'est ça, tu sais, il y a quand même une équipe relativement intacte, tandis que les deux autres, Zito et Bergevin, ont vraiment, comme, t'sais, fait des gros changements dans la dernière année. Donc, je pense que c'est peut-être plus facile d'évaluer leur travail comme DG de l'année. Là.
Exact. Je suis 100% d'accord. Même moi, je trouve que Zito a peut-être même une coche de plus que Bergevin, dans la mesure où Bergevin a quand même amené des joueurs à relativement haut profil. Quand on regarde, ouais, Toffoli, c'était quand même un joueur connu dans la Ligue nationale. Jake Allen, ça a été un partant. T'sais, Zito a ajouté des joueurs un peu qu'on sentait périphériques. T'sais, Carter Verhaeghe, Anthony Duclair, Patrick Hornquist, tout le monde disait c'est fini pour lui. Après ça, dans la saison, Brendan Montour, tu sais, ou Alex Moenberg aussi, tu sais, c'était pas des gros canons. Il perdait en plus Mike Hoffman puis Evgeny Dadonov. Je trouve que Zito a vraiment fait un super travail. Et moi, je me demande où est Julien Brisebois. Parce que s'il y en a un DG cette année qui a travaillé très, très, très fort pour encore améliorer son équipe,
ouais, mais
en jouant...
On veut pas valoriser la petite feinte qu'il a faite d'avoir 18 millions, peut-être.
Non, mais encore une fois, je l'ai dit la semaine passée sur le podcast, moi, je pense qu'il y a des règles qui devraient changer, mais en jouant avec les règles, ben il a réussi à améliorer son équipe qui a gagné la Coupe Stanley l'an passé. Ouais. Fait que je pense que Brisebois aurait peut-être une petite place là-dedans.
Mais moi, je pense que, étant donné que c'est voté par les DG, je pense qu'il y a bien des DG qui se seraient désistés de voter pour lui à cause, je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont dans le derrière, cette situation-là. Donc, je pense que malheureusement pour lui, il a fait un excellent travail. La seule chose que je dirais, c'est que Marc Bergevin, on lui a quand même donné le budget pour aller jusqu'au maximum du plafond salarial. Est-ce que ça va jouer contre lui, contre un gars comme Bill Zito? Peut-être. On verra. On s'arrête le temps d'une courte pause. On va parler de ce qui se passe ailleurs dans la Ligue nationale et ensuite, on aura aussi les questions du public.
Chez Canadian Tire, on a tout ce qu'il faut pour que vous profitiez pleinement de votre piscine ou de votre spa cet été. Trousse d'ouverture, produits d'entretien, équipement de nettoyage, jeux d'eau, vous trouverez de tout pour vous amuser. Vous en avez besoin? Nous l'avons. Canadian Tire, notre magasin pour la piscine.
Voilà de retour maintenant pour les sujets ailleurs dans la Ligue nationale. Je sais pas si vous avez suivi un peu ce qui s'est passé dans le dernier match entre les Islanders et le Lightning, mais le gardien Semyon Varlamov a été blessé lorsque Adam Pellick a poussé Braden Point directement dans son gardien. Il a raté quelques minutes, 6 ou 7 minutes de jeu. Ensuite de ça,
il est revenu dans le match.
Mais la question que je me pose, est-ce que, bon, c'est à quel point est-il à 100%? Et, tu sais, on avait jusqu'à ce moment-là quand même un excellent duel de gardien de but entre Varlamov et Vasilevski. Est-ce que ça va changer dans cette série-là, suite à ce coup-là?
Moi, je dirais, là, ce qui m'a amené, ce que j'ai eu comme réflexion en voyant ce jeu-là, c'est que je crois sincèrement qu'à un moment donné, il faudra donner la reprise vidéo aux officiels parce qu'il était clair, net et précis que Braden Point n'avait pas l'intention.
Non.
Le geste, je dis pas qu'il n'a pas ralenti, il n'a pas mis des gants blancs là, quand même, là, mais Pelec là, lui a donné un double échec dans le dos. Point a rentré dans Varlamov et là, on a puni Braden Point. Et en s'en allant au banc de punition, Braden Point regarde l'officiel en disant « Regarde l'écran, là! »
Exact.
C'est lui qui m'a poussé, il m'a donné un double échec. Ouais. Fait que donc, à un moment donné, ça, c'est quelque chose qu'il faudra peut-être repenser à dire « Attends, je vais aller voir la reprise vidéo puis je vais donner une pénalité là-dessus. » Parce que pour moi, il n'y avait pas de pénalité là parce que c'est été poussé par le joueur. Non. Et ce qui est dommage là-dedans, c'est que Varlamov s'est fait vraiment ramasser. Là.
C'est sûr.
Solide, là.
Hey, moi, je suis Varlamov, mais on va voir Pellet, puis tu sais, hein? J'ai donné un char de...
Ah, tu fais ça, toi? Ben ouais.
Ben là, beau du fou, es-tu malade?
C'est clair, c'est pas fort. Ben oui, exact. Puis tu sais, comme défenseur, c'est que tu transfères ton problème au gardien. Dans le fond, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas intelligent comme geste ce que Pelec a fait, qui est pourtant un très bon défenseur. Mais là-dessus, il l'a échappé. Pour ce qui est du duel de gardien, la bonne nouvelle là-dedans, au moins, c'est que les Islanders sont quand même bien, tu sais, ils ont quand même Elias Sorokin comme deuxième, qui a eu des statistiques à peu près comparables à celles de Varlamov pendant la saison et même depuis le début des séries aussi, même chose. Il joue pour 936. De toute façon, vous le savez, on commence à le savoir. Ça fait 25 ans que Barry Trotz il est dans la Ligue nationale. Le gardien de Barry Trotz va toujours être bon, va toujours avoir des bons chiffres, peu importe c'est qui. Donc, moi, le duel de gardien comme tel ne me fait pas trop peur là-dedans.
Simon-Olivier, cette série-là, qu'est-ce qu'elle te dit?
Je vais faire un aveu ici. Je n'ai pas beaucoup suivi cette série-là jusqu'ici. Je pense que
c'est correct.
En tout cas, je pense avoir déjà exposé par le passé, mais je suis un nouveau papa et mes soirées pas canadiennes sont plus familiales que hockey sur la route.
Non, mais il faut parce que
je suis pas beaucoup.
Non, parce qu'à un moment donné là, et moi en plus ajoute le soccer, ajoute l'euro, ajoute le Canada, là, écoute m'a dit madame là des fois là et elle me fait de la baboune. Bon, qu'est-ce que devrait faire
bon allait, mais c'est correct.
Qu'est-ce que devraient faire les Bruins de Boston avec la situation de leur gardien de but avec Tuukka Rask qui aura besoin d'une opération cet été. Est-ce qu'on lui offre un nouveau contrat? Yaroslav Halak pourrait aussi quitter à la fin de la saison. On a deux autres gardiens, en Jeremy Swayman, mais aussi Dan Vladen. Est-ce que c'est la fin pour le duo Tuukka Rask, Yaroslav Halak à Boston?
Ben, moi, je sais pas, là, mais j'entendais les propos de quelques experts qui couvrent les Bruins de Boston, puis on se questionnait sur Tuukka Rask, parce que oui, on parle d'une opération, c'est à la hanche, je pense. Là. Et on parle d'un retour potentiel janvier-février. Ça, c'est loin longtemps. Là. Et t'as besoin d'avoir un bon gardien de but. Est-ce que t'es prêt à y aller avec Swayman? Je le sais pas. C'est une option intéressante. Halak, lui, il y a une possibilité également, mais clairement, là, on se pose des questions sur Patrice Bergeron. Il va revenir, là. Il va être là un contrat d'une saison. Mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, on sent que la page va se tourner là, du côté des Blues.
Ben, la question a été posée à Cam Neely. Est-ce qu'on est rendu au point où il faut commencer peut-être pas à faire une reconstruction, mais peut-être un reset, je ne sais pas. Et ça va peut-être commencer avec les gardiens de but. Guillaume, qu'est-ce que tu en penses?
Ben, peu importe ce qu'ils font, ils peuvent pas y aller avec Vladar et Jeremy Swayman, par exemple. Je veux dire, on le sait, là, un gardien, ça prend du temps, il y a des hauts et des bas. Je pense que, tu sais, là, écoutez, Swayman a 10 matchs d'expérience dans la Ligue nationale, Vladar en a 5. Ça serait excessivement hasardeux d'y aller comme ça puis de pas avoir un bon vétéran. Donc, tu sais, pourquoi pas justement garder, tu sais, ramener Halak, par exemple, pour, je sais pas, peut-être pour 2 ans, le temps qu'un des deux autres se développe, gagne d'expérience. Tu sais, c'est des options comme ça qu'il faut considérer, mais moi, je pense qu'ils doivent ramener un des deux, et, idéalement Halak, comme vu qu'il sera en santé.
Sauf qu'Halak était rendu 3e dans la hiérarchie là, à la fin de la saison. Je sais pas s'il reste 2 saisons.
Mais c'était pas l'histoire de la COVID. Il n'y avait pas eu la COVID. Puis c'est ça qu'il y avait. Ouais, c'était pas ça.
Ah, pas vu ça passer. Non, je sais pas. C'est moi, Olivier.
Moi, je trouve que la situation n'est pas si problématique à Boston. Bon, en fait, on recommence. Se retrouver avec pas de gardien numéro 1, c'est un problème pour tout le monde. Là. Mais dans la situation des Blues, je signalais 2 choses. Premièrement, les peu réduits du Canada. Canadiens sont les premiers conscients, les Bruins se sortent toujours du trouble. Quand on pense que les Bruins sont mal pris, quand c'est fini cette saison, ben c'est pas vrai parce qu'ils trouvent une solution. Fait que je suis pas inquiet pour eux. Ensuite, le fait que Rask soit blessé, ben à long terme, c'est que ça leur donne, avec lui en tout cas, une marge de manœuvre de négociation, parce que c'est un gardien de but qui était joueur autonome sans restriction, qui voulait rester à Boston, mais tout à coup, il coûtera pas cher aux Bruins. Fait que ça, c'est une bonne option qui, en plus, arriverait au cours de l'hiver. Après ça, sur la décision de commencer ou pas avec Swayman, si c'est moi qui gère les Bruins, je suis pas sûr que j'irais, parce que non seulement il y a juste 10 matchs d'expérience en Ligue nationale, il y a 9 matchs en Ligue américaine. Avant ça, c'est universitaire. Il y a 19 matchs professionnels joués. Et fait que tu sais, je vois qu'il a joué dans un 20e match en série. Fait que c'est un peu hasardeux. Mais des gardiens sur le marché des joueurs autonomes, il y en a, là. Il y a Mrazek qui va être là. Il y a Frédéric Anderson qui va être là. Tu sais, il y en a de plus bas profil, un genre de Michael Hutchinson aussi. C'est pas nécessairement des énormes options, mais je pense que ça donne des cartes dans le jeu de Cannelly puis de Don Sweeney pour trouver une solution relativement satisfaisante à court moyen terme. Puis si Swanson est super hot, ben, Colin, les Bruins en seront que gagnants, si on veut.
OK, on fait
un facteur intéressant l'autre petit facteur intéressant, c'est que les équipes qui ont deux gardiens et qui ont peur d'en perdre un à Seattle au repêchage d'expansion, ça peut être des cibles de transaction aussi pour Boston. Donc ça, c'est une autre option qui pourrait s'offrir aux Bruins.
OK, petite pause et ensuite de ça, les questions du public.
Chez Canadian Tire, on a tout ce qu'il faut pour que vous profitiez pleinement de votre piscine ou de votre spa cet été. Trousse d'ouverture, produits d'entretien, équipement de nettoyage, jeux d'eau, vous trouvez de tout pour vous amuser. Vous en avez besoin? Nous l'avons. Canadian Tire, notre magasin pour la piscine.
Voilà, de retour maintenant avec les questions du public. On va commencer avec celle de Maxime Simard. Comment expliquer les nombreux buts rapides après avoir perdu des mises en jeu? Mauvaise couverture, mauvaise lecture de jeu. Les Golden Knights ont marqué 4 de leurs 6 buts directement sur des mises en jeu perdues. Je ne sais pas si c'est un hasard. C'est pas des hasards, je veux dire, c'est des set plays, comme on dit. Excusez l'expression, mais est-ce qu'il y a quelque chose à faire?
La brigade défensive et des Golden Knights, c'est assez favorable. Là. On a vu Pietrangelo, on voit chez Théodore. Chez Théodore également. Et chez Guillaume, tu as surveillé beaucoup les statistiques là, dans le territoire défensif. Je vais te laisser aller là-dessus, mais juste d'un point de vue hockey, là, quand un joueur du Canadien perd une mise en jeu, le gros de la job, là, c'est pas juste le joueur de centre, ce sont les deux alliés. Les deux alliés doivent sauter plus rapidement dans l'action ou sauter plus rapidement à leur couverture. Et ça, parfois, on est passif. Souvent, ça va arriver après, tu sais, un dégagement refusé, ça va arriver après une grosse période où, tu sais, ça a brassé. Donc, il faut être proactif, il faut prévoir ce qui s'en vient. Donc, je m'attends à voir les alliés du Canadien peut-être un petit peu plus jumper dans l'action et démontrer plus d'énergie. Mais Guillaume, tu as des statistiques là-dessus sur les mises en jeu dans le territoire défensif? Est-ce que ça dit du côté du Canadien?
Ouais, ben c'est ça. En fait, pour la plus fascinante, c'est Nick Suzuki qui est il en a pris 10 mises au jeu en zone défensive contre Vegas en deux matchs dans la série. Il en a gagné 7 des 10 et les trois qui ont perdu, ça a été les 3 buts de Vegas. Wow. Donc ça, si on parle d'un gars quand même pas chanceux et on revient aussi au travail des alliés, ben c'est ça, effectivement, c'est deux facteurs qui sont là. Moi, le petit point que j'ajouterais à l'explication de Jérémy, c'est aussi le fait que Vegas est très bon pour dès que la rondelle part vers l'arrière, et Vegas est très bon pour converger au filet. Ils ont des gros attaquants pour y aller, pour passer. Et puis ça, ben, c'est peut-être un autre ajustement que les alliés peuvent faire. C'est-à-dire, si tu vois que tu perds la mise au jeu, ben, soit justement que tu sautes dans le jeu, ou soit sinon, exact, que tu essaies de dégager la vue pour Price.
Simon Olivier, as-tu quelque chose à dire sur cela? Sinon, on passe à l'autre.
Non, je pense que nos collègues ont assez bien résumé.
Okay, parfait. Je suis fier d'eux. Je te laisse commencer dans ce cas-là sur la deuxième question, celle de Pierre Loup. Comment faire pour régler le double standard des officiels en séries éliminatoires versus la saison régulière? Les officiels sont critiqués plus qu'à d'habitude, il me semble. Est-ce que la Ligue peut faire quelque chose à ce niveau?
Moi, je sais pas la solution exacte réside où, mais je pense que la Ligue nationale pourrait être un des premiers sports à être arbitré de manière je vais appeler ça hybride, c'est-à-dire pas seulement humaine. C'est-à-dire que je pense que c'est correct les sports qu'on va appeler jugés, c'est-à-dire avec un arbitre comme ça, mm-hmm. mais j'ai l'impression que le dossier s'épaissit des arbitres qui soit font preuve de mauvais jugement, soit manquent des jeux. Tu sais, je regardais hier quand il y a un arbitre qui a sifflé rapidement, ou c'était peut-être un juge de ligne, oui. quand Fleury avait pas le contrôle de la rondelle. Oui. Tu sais, ça devrait pas arriver. Je comprends que l'erreur est humaine, les officiels peuvent être extrêmement performants. Regardez le travail des juges de ligne, à quel point ils sont précis, à quel point ils se trompent rarement. Mais les arbitres eux-mêmes, peut-être que c'est leur donner plus d'outils. Peut-être, tu sais, on en parlait tantôt, c'est Jérémy qui disait peut-être la reprise vidéo. Peut-être que ça peut être ça. Mm-hmm. Peut-être que ça prendrait une espèce d'officiel qui est pas sur la glace, qui pourrait faire des calls, qui pourrait, ouais. je sais pas quoi, mais moi, je pense qu'éventuellement, avec l'évolution du jeu, ça pourrait devenir peut-être pas inévitable, mais à tout le moins profitable pour la Ligue de songer à d'autres options un peu alternatives, parce que la Ligue paraît pas bien dans ce temps-là, et je trouve pas que c'est positif pour le jeu de voir des calls ou des non-calls comme ça sur la glace. Là.
Moi, je suis tellement d'accord avec toi. On veut pas nuire à la fluidité du match, mais qu'est-ce qui empêche d'avoir un arbitre sur la galerie de presse, puis lorsque le sifflet arrive, dit écoutez, vous en avez raté une, il y a eu une punition, puis il a sûrement eu la chance, lui, de la revoir une fois, deux fois, trois fois, pour s'assurer que c'était bel et bien une punition. Parce qu'on en échappe trop, là.
Ouais, on en échappe trop, mais écoute, le spectacle passe avant toute chose. Je pense que où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Quand il y a un vice-président opération hockey, Colin Campbell, qui est là, il y a toujours le petit message pour les officiels. Tu sais, ah, les boys, hein, ça, c'est important. Ouais, pas trop. On marque pas assez de buts, donne plus de punitions. Il y a trop de punitions. Ouais, arrête les punitions. Tu sais, tant aussi longtemps que le politique de la Ligue nationale de hockey sera mêlé à l'arbitrage, il y aura toujours ce genre de situation-là. Je trouve ça dommage parce que je pense que les officiels ont leur laissé faire leur job comme il faut, là, dit applique le livre, fais-le, puis fais-le comme il faut, je pense que ça serait parfait. La seule chose, c'est qu'il y a beaucoup de jeux de coulisses à travers tout ça.
Est-ce que vous vous souvenez, il y a une couple d'années, dans la série Maple Leafs Bruins de Boston, les Bruins avaient été éliminés sur une pénalité très tardivement dans le match. Une pénalité claire, là. Claire. Et les Bruins avaient marqué sur l'avantage numérique, avaient gagné la série, étaient revenus de l'arrière, les avaient battus en 7 et tout ça. Et à Toronto, là, je veux dire, on venait fou, là. Mais on venait fou contre l'arbitre qui n'avait pas laissé jouer. Tu sais? Mais tant et aussi longtemps qu'on va avoir cette maudite mentalité-là que c'est de la faute de l'arbitre qui a appelé la pénalité, qui était une pénalité.
On chialait pas en plus parce que le fils de Colin Campbell jouait pour les Bruins de Boston.
Ça se peut. Écoute, je m'en souviens plus. Oui. Guillaume, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus.
Ouais, ben non, ça rejoint pas mal ce que vous disiez. De toute façon, personnellement, les débats d'arbitrage m'attristent un peu parce que j'ai l'impression qu'on a continuellement les mêmes débats et c'est pas notre faute. C'est la Ligue nationale, justement, qui est en refusant de prendre en main la situation de façon plus franche, nous ramène constamment là.
Bon, dernière question, celle de Martin Gagnon, puis ça c'est un petit peu ça sort un petit peu, disons, du cadre de cette série-là. Avec la performance de Samuel Girard en série et les critiques à son endroit au Colorado, réunir Drouin à McKinnon et obtenir un jeune joueur mobile et québécois à Montréal, qu'en pensez-vous?
Moi, je suis zéro crédible dans les transactions. Je pensais qu'il fallait changer Suzuki pour Pierre-Luc Dubois. Fait qu'à partir de là, oubliez-moi là-dessus, j'en bac pas là-dedans. Moi, c'est fini.
Mais.
J'aimerais ça signaler que j'aimerais ça gagner à la loterie aussi. Si ça intéresse quelqu'un, je suis disponible n'importe quand pour gagner un gros montant. En tout cas, c'est y a aucun problème. Non, mais en fait, je veux pas manquer de respect à monsieur Gagnon qui a pris la peine de nous écrire. Mais tu sais. D'abord, je pense pas que Jonathan Drouin ait une grande valeur sur le marché présentement. Et tu sais, Samuel Girard, on le trouve bon, nous. Je pense que l'Avalanche aussi le trouve bon. Puis il y a eu toutes sortes de raisons qui expliquaient que l'Avalanche est sortie peut-être prématurément par rapport à ce à quoi on s'attendait. Puis peut-être que Girard a pas connu nécessairement les séries de sa vie, mais tu sais, le cœur de la défense de l'Avalanche est extrêmement jeune. Girard avec Kyle Makar, des gars comme Taze et Graves sont un petit peu moins jeunes, ils ont peut-être 26-27, mais tu sais, c'est des gars signés à long terme. C'est des gars qui ont eu cette saison, l'Avalanche a dominé non seulement offensivement mais aussi défensivement. Mm-hmm. Fait que tu sais, on va pas réparer ce qui est pas brisé. Puis je pense qu'il y a des trucs, peut-être il y a des tu sais, McKinnon notamment qui a exprimé son mécontentement, tu sais, peut-être il va avoir des choses à régler cet été, mais tu sais, si Samuel Girard quitte, c'est sûr que ce sera pas pour Jonathan Drouin, ça va être pour je sais pas qui, mais ça va être meilleur que d'autres. T'sais, j'aime bien Drouin, mais ce sera pas pour Drouin.
Mais puis en plus, présentement, on n'a pas eu de nouvelles de lui depuis un bon bout.
Mais Simon-Olivier, quand tu dis...
Ouais, puis...
Vas-y, Guillaume.
J'allais ajouter aussi, oublions pas qu'une des raisons pour lesquelles le nom de Girard a circulé, c'est aussi parce que l'Avalanche pourrait être serrée sous le plafond cet été avec la quantité de contrats renouvelés. Samuel Girard gagne 5 millions, c'est 500 000 de moins que Jonathan Drouin, donc ils seront pas plus avancés avec leur situation s'ils inversent les deux joueurs.
Et juste dire, Simon-Olivier, quand tu disais, tu sais, l'Avalanche a quand même dominé défensivement, ben on sera obligé de se référer encore une fois au même classement de cette division-là, où il y a eu des clubs qui étaient vraiment ordinaires aussi. Fait que donc, si t'es un bon gardien de but, c'est peut-être plus facile d'être solide défensivement et de tout donner à l'attaque. Mais tu sais, vraiment, je pense qu'il va falloir que l'Avalanche Colorado revisite sa défensive et s'amène un peu de vétérans, parce que oui, c'est offensif, mais quand ça se met à brasser dans le territoire, des fois, c'est un petit peu compliqué, là.
Bon, les gars, on s'arrête là-dessus. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Moi, je tombe en vacances à la fin de la semaine.
Sérieux?
Imaginez-vous donc.
Ben,
ça devait pas être ça, mais finalement, ça va être ça. Fait que je sais pas exactement qui sera là au micro la semaine prochaine.
Ah, je te dis, c'est pas mal, ça va être moi, je pense.
Ouais, hein?
Ouais.
Il y a des bonnes chances que ce soit ça.
C'est pas mal ça.
Mais ce qui est important, c'est que l'émission Sortie de zone sera là, le podcast sera là. Oui, Simon-Olivier, vas-y.
Ben, j'allais te souhaiter un bon euro pendant tes vacances. Parce que je pense à quoi qu'on va avoir un peu de TV pendant ces vacances.
Un petit peu de... Non, mais écoute, si le Canadien sera en finale, là, puis je suis en vacances, là, je vais tout trouver bizarre chez nous. Ça va être incroyable. Mais que voulez-vous?
On va t'appeler.
OK, ben appelez-moi, c'est ça. On en jasera. Alors, Simon Olivier Larange, Guillaume Lefrançois, Jérémy Rainville, merci d'avoir été là pour l'émission d'aujourd'hui. Maxime P. Paquette à la mise en onde aussi. Et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Salut tout le monde!